Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bonjour, bonjour, bienvenue dans Capture Mag Hebdo, nous sommes mi-avril, excusez-moi, ne te découvre pas d'un fil. Et ouais, bah voilà, c'est des blagues de vieux ça, hein, n'est-ce pas Stéphane?
Salut David, ça va?
Ça va bien, et on a toujours Yannick Dahan avec nous.
Salut!
Yannick qui mange des chips, tout va bien, c'est bon, c'est pas trop mauvais?
C'est très bon.
T'as le droit de te rapprocher, hein, t'inquiète pas, on t'entend pas manger tes chips. D'accord. C'est pas grave, on est entre nous, il fait beau, c'est le printemps et on profite de ce beau temps pour se nourrir, hein, c'est normal, pour prendre reprendre un peu de poids pour l'été. Hein.
Un peu de poids, ouais.
C'est ça. Bon alors aujourd'hui on va parler de Life, on va parler de Fast and Furious 8. Et de la trilogie Ninja.
Trilogie Ninja, ouais, magnifique.
Vraiment
la canon.
Exactement. Sujet absolument passionnant. Voilà, bon, bah. Mais oui, tout à fait. Sujet passionnant.
T'as pas une nuit au max à nous annoncer? T'as pas un
mais
truc?
Mais si j'ai une nuit au max qu'on vient d'annoncer la semaine dernière, en fin de semaine, c'est une nuit qui va avoir lieu le 10 juin. Et c'est une nuit dans laquelle on va fêter deux anniversaires. Deux 20e anniversaires. Donc on va fêter le 20e anniversaire de Starship Troopers. Qui est quand même un super bon film de Paul Verhoeven.
Un chef-d'œuvre même.
Un chef-d'œuvre, on est d'accord. Et on va aussi fêter le 20e anniversaire de Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet.
Donc, D'accord.
Alors vous aimez peut-être moins, mais moi j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a des qualités dans ce film. Et c'est un film de SF quand même avec plein de bonnes choses. En plus, le scénario de l'ami Joss Whedon.
Ouais, c'est ton ami à toi ça.
Voilà, mon ami Joss Whedon.
A donc ruiné l'intégralité de la saga Alien.
Non, je trouve
on le remercie.
Ça annonce pas mal de trucs qu'il a fait après, hein, ouais. Et c'est pour ça le film est aussi intéressant. Puis il y a la magnifique photo de Darius Kanji, et puis il y a Ellen Ripley qui est toujours aussi extraordinaire quand même.
Ouais. Mais du coup, alors il y a quoi? Il y a deux films dans la même soirée?
Il y a trois films.
Ah.
C'est pas le 20e anniversaire des trois films, c'est la nuit des étoiles, la nuit au max des étoiles. Ah. Et donc on commencera par un film d'un réalisateur que j'adore tellement, puisqu'on va commencer par Stargate.
C'est pas vrai. Enfin, mais quand est-ce que tu fais une nuit Roland Emmerich? C'est déjà fait.
Mais non, on peut pas tous les passer. On verra ça plus tard. En tout cas, on commence par Stargate, on va continuer par Starship Troopers et on finira sûrement par Alien 4 ou Alien 4 d'abord. On verra, je sais pas encore.
Encore l'ordre en tête.
J'ai pas, enfin, a priori, ça devrait être cet ordre-là, sauf que il y aura peut-être une guest qui ferait qu'on changerait l'ordre, mais je vous en reparlerai. En tout cas, c'est en vente pour les nuits au max. Ça va être le 10 juin. Ça va être quand même festif, hein, parce que c'est du film. Bien sympathique, hein, dans l'ensemble, on va pas s'ennuyer. Puis il y a plein de gens qui ont pas eu la chance de voir ces films-là au cinéma. C'est toujours l'idée des nuits au max. Et surtout de les revoir au Max Linder Panorama. Et je signale que pour Alien 4, on devrait avoir une magnifique copie 35mm de la Fox. Ouais. Et ça fait déjà plusieurs nuits au max qu'on passe des copies 35mm. Et franchement, c'est vachement apprécié par le public. Ah, on a passé Pirates des Caraïbes en 35mm et la qualité était vraiment bonne. Merci Disney d'ailleurs pour une si belle copie. Et puis on a passé Underworld aussi. Il y a une nuit Underworld. Il en faut pour tous les goûts.
On n'a rien dit.
On a passé les deux premiers.
Il y en a des rigolos dedans, moi je trouve. Mmh.
Tout
à
fait. Il
n'y a pas de problème.
Et on a
passé. Coming out.
On a passé les deux premiers opus en 35 mm et les copies étaient magnifiques. Et ça, pour le coup. Enfin, ça fait plaisir de revoir du 35 mm sur un écran comme le Max Linder.
M'étonne,
et clair. Ça passe très très bien. Donc, Alien 4 en 35, Starship Troopers en DCP de chez, de chez nos amis Disney, justement. C'est eux qui nous fournissent...
Ouais, c'était Buena Vista, en France.
Buena Vista, exactement. Et pour Stargate, je sais pas encore, mais ça sera peut-être une source Blu-ray. On verra. Bon, il y a un très beau Blu-ray de chez Studio Canal, donc de toute façon... ça sera de bonne qualité, de bonne facture. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour les nuits au max. Je signale que la nuit Carpenter, au moment où nous diffusons ce podcast, est à mon avis complète, parce qu'il ne restait qu'une poignée de places. Donc allez voir, mais je crois que c'est fini. Et ça sera le 13 mai. Et ça va être super chouette. Il va y avoir une ambiance de folie pour voir New York 97.
C'est New York 97.
Los Angeles 2013 et Invasion Los Angeles.
Attends, tu peux pas me pêcher une place pour... Moi, je dois aller voir New York 97.
Eh ben, on va s'arranger, Yannick. Il n'y a pas de problème. Je te trouve un strapontin pour aller à la nuit au match.
Il fait son marché aussi.
Il a raison. Ok, allez, on passe à l'actu. On passe au premier film. On passe à Life. Alors, est-ce que c'est Yannick qui nous parle de Life
non,
ou c'est
Stéphane?
Non,
c'est moi qui vais te parler. Alors, Stéphane, on l'a vu tous les deux. Mais...
Ouais, je laisse commencer.
Voilà. Life, origine inconnue. Et je vais te dire de Daniel Espinosa, donc c'était le réalisateur de Sécurité rapprochée. Alors moi j'ai pas vu Sécurité rapprochée, je sais pas si tu te rappelles de ce film.
C'était le truc avec Denzel Washington qui se passait en Afrique du Sud, non?
Et déjà Ryan Reynolds,
ouais, qui était plutôt joli visuellement. Enfin, la facture était correcte, mais ça m'a laissé aucun souvenir à part ça.
Voilà, comme Life.
Moi je l'ai pas vu.
Comme Life, exactement, que j'ai déjà complètement oublié.
Alors Life, c'est un film de science-fiction.
Ouais, alors origine inconnue, c'est vite dit, hein, parce que bon, ça ressemble quand même vachement à Alien. Et si t'as pas vu Alien, bah effectivement,
ça rappelle la Mutante 2 ou 3, je sais plus aussi dans le principe, puisque il y a une, c'est le 3, je crois.
Oui.
oui. Vous voyez, ma culture cinématographique.
Tu te rappelles parce que tu l'as passé à une soirée.
Non, parce que j'avais rencontré Natasha Elstridge à l'époque pour l'interviewer et c'était un excellent souvenir.
D'accord, donc c'était le 2, je pense. Elle n'était pas dans le 3, je crois.
Alors, ça devait être le 2, ouais. C'est dans le 2 où elle ramène un truc de Mars, je crois.
Revenons à Life. C'est exactement ça, en fait. Ils trouvent une vie extraterrestre sur Mars et ils la ramènent, en fait, dans leur vaisseau et ils annoncent ça à la Terre entière. Et en gros, bah, la vie extraterrestre, en fait, elle est méchante.
Ah,
c'est l'accent de Yannick Adam.
Voilà, exactement. Ça change.
Non, mais okay, c'est un produit philippin, hein, le film. Hein. C'est un sous-alien qui se casse pas le cul une seconde pour sortir des rails dans Alien, quoi. Il essaye même pas d'avoir une idée dans le film. Moi, j'ai pas souvenir d'une seule idée.
En fait, le problème, c'est que. Le truc, c'est que c'est un peu difficile d'exprimer, en gros, la problématique du film. Parce que. Non, mais c'est vrai, si t'as vu Alien, en fait, en gros, ton film, il est. En termes de suspense, il est complètement niqué. C'est vraiment le problème, en fait. Et l'autre truc, c'est que. Ça fait partie, en fait, c'est un truc où Ryan Reynolds, en fait. Il surfe pas sur la vague de Deadpool puisque ça ne ressemble pas à Deadpool.
Mais c'est sûr qu'il aurait du mal à surfer sur la vague de Green Lantern, hein, parce que c'était pas vraiment
non plus,
un succès.
Mais là, en fait, il surfe sur le succès de Deadpool, en fait, pour lancer ce projet-là, qui est, en fait, un projet, en gros, qui est des mêmes scénaristes, les scénaristes de Deadpool. Avec donc le réalisateur de Sécurité rapprochée, donc il est vraiment en terrain connu. Et on va dire que peut-être la seule surprise, en fait, mais je sais pas si... Enfin, on va peut-être avoir... Est-ce que t'as un petit bouton spoiler, là?
Ah ouais. Non, mais je l'ai pas, là, sur moi.
Il l'a pas sur toi, c'est dommage. Vois, donc, il faut dire aux gens, spoiler!
Ah, tu veux dire pour le final?
Bah non, même pas pour le final. C'est qu'en gros, si tu veux, la star du film, c'est Ryan Reynolds écrit en gros. Mais en gros, c'est le premier à crever.
Oui, bah oui.
Voilà, donc...
C'est un peu comme Executive Decision. Enfin, on va voir Ryan Reynolls et il meurt au bout d'une demi-heure.
Ah oui, c'est comme l'asperge dans Executive Decision. Là.
L'asperge, comment tu l'appelles?
Steven Seagal. Steven Seagal comme ça.
D'accord. Moi, je l'ai toujours appelé l'asperge, j'aime bien ça.
Et du coup, en fait, en gros, bah voilà, comment dire, le problème de ce film, en fait, c'est que... Ça arrive 40 ans après Alien, quasiment.
Et alors, breaking news, hein, parce qu'il se passe des choses quand même dans le studio. Rafik Djoumi vient d'arriver et nous rejoint.
Salut les filles.
Voilà, Rafik, il n'a pas vu Life.
Non, alors on parlait de Life avec Ryan Reynolds et...
Le problème de cette émission, c'est que vous parlez de films qui sortent en salle. la chose la moins intéressante du monde. Mais allez-y, continue, faites comme si j'étais pas à la salle.
Ça va être le gros bordel, cet épisode. Là,
ouais, mais c'est pas grave, c'est
la vie.
C'est la vie, voilà. Exactement. Capture Max, c'est la vie.
Ouais. Non, mais honnêtement, c'est hyper difficile. Attends, je vais finir mes chips. Non, c'est super difficile de jauger un film pareil qui est strictement un copier-coller. Ou
bon,
même,
alors, je vais poser la question.
Même, tu peux même pas te dire fondamentalement que la créature qui devrait être donc l'intérêt principal du récit, soit original. C'est-à-dire c'est une créature que t'as déjà vue sous cette forme dans what mille films de SF, dont le traitement n'a aucune spécificité particulière par rapport à tous les films de SF qu'on a vus.
La seule idée, c'est que quand elle pénètre un corps, en fait, pour le bouffer, c'est qu'elle ressort un peu plus grosse, quoi. Mais
ouais, on l'a déjà vu dans d'autres trucs, ça.
D'accord, je dis par rapport à Alien.
Oui, voilà. Alors elle est bien faite, cela dit, techniquement, la bestiole.
Alors c'est ça, ce que j'avais posé comme si.
Oui, mais tu t'en fous que ça soit techniquement bien fait.
Toute cette vague de films de science-fiction en ce moment, il y a eu Passenger à la fin de l'année dernière, qui était pas non plus franchement passionnant, mais qui avait le mérite d'avoir.
Même très très con.
Ouais, mais qui avait le mérite d'avoir des beaux décors, tu vois, et des belles visions de space-op. Alors est-ce que si on est à la recherche de quelques beaux effets spéciaux et de quelques jolies visions de space-op, il y a de
non,
quoi.
Non,
pas vraiment, parce que.
Même pas. Non, mais franchement, non.
C'est un film qui est soigné. Tu peux pas dire qu'il est pas soigné, mais le problème, si tu veux, c'est qu'il a aucun intérêt. Je veux dire, moi, enfin, nous, on est assez vieux ici à cette table pour se souvenir de Léviathan.
Ouais, bien sûr.
J'allais le citer. Je ne pensais qu'à ça depuis que je suis arrivé. Je me suis dit, c'est en train de parler de Léviathan. Ouais,
de mutants aquatiques en liberté.
Oui, mal. Voilà, oui, mais alors Léviathan, pour le coup, avait une magnifique musique de Goldsmith, si je me souviens.
Il avait surtout de la production design. Enfin, il y avait des designers derrière le film, pas mal de, enfin, les Ron Cobb et compagnie. Enfin, je sais.
Ouais, une belle équipe. Ouais. Et puis il y avait une photo. Ah non, c'est dans Mal qu'il y a la photo d'Alex Thompson. Je me souviens plus lequel des deux.
Les gars, vous rappelez trop de ces films-là. Pour c'est,
c'est vrai que la musique de Léviathan, je l'ai écouté un peu en boucle, hein. Elle était très,
tout
très
ce
belle.
Que je me rappelle de Léviathan, c'est que c'est le grec qui l'a réalisé, c'est tout.
Je me rappelle, c'est Miguel Ferrer qui joue dedans. Voilà, je me rappelle
Peter
de ça.
Peter Weller.
Cosmatos à la caméra.
Oui, et le truc, c'est le dernier film d'ailleurs, avant qu'il disparaisse.
Mais non, il a fait d'autres films après.
Ah bon?
Oui, il a fait Tombstone, il a fait.
C'était après Tombstone, c'était avant Tombstone.
En 89.
Mais non, mais tu rigoles.
Shadow Conspiracy, c'était lui.
Ouais, mais le truc.
Je pensais que c'était pas si vieux que ça en fait.
David. Recentrons-nous sur le sujet.
Oui, tout à fait. Revenons à Life.
Si tu estimes que Mutant Aquatique en Liberté ou Léviathan, c'était déjà des rip-off d'Alien en 89
ou
90.
Et puis
imagine
pas bon,
Life qui arrive aujourd'hui en 2017. Quoi.
Ouais, tu vois bah, bon, c'est le des rip-off intérêt... de Prometheus, en fait.
Donc le seul intérêt, en gros, c'est de mettre Ryan Reynolds en avant et c'est leur seul argument.
Et l'autre acteur qui est pas mal aussi.
Jake Gyllenhaal.
Ouais, ouais.
Sérieux?
Oh, il est sympa.
Bon,
je me demande ce qu'il fout là-dedans, franchement.
Le truc, c'est que t'as l'impression que c'est un vrai deal en fait de d'agent de studio.
Ouais,
qui
bah c'est ça.
Alors vous
ça.
Avez ce projet bah, qui traîne depuis un moment. On a cet acteur. Allez-y, on y va. Combien vous pouvez
On
mettre
a 6 mois. Dépêchez-vous.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, le mec te sort le film. Le film ne marche pas en salle puisqu'il est sorti aux États-Unis. Il n'a pas marché. Et comment dire, ça sera probablement un bon produit vidéo. Mais le problème, c'est que c'est déjà un produit vidéo sur le papier. Donc c'est un peu bizarre en fait. C'est pour ça que c'est un peu bizarre de parler de ce film-là qui est censé entre guillemets être un événement. Et en gros, c'est juste une
entre
série.
Entre gros guillemets.
Ouais, et ouais, quand je dis un événement, c'est que c'est un peu monté en épingle par Sony. Mais le truc, c'est que qui est censé être un événement et qui est en fait en gros une grosse série B Z comme ouais. On l'avait chopé en vidéo club à l'époque.
Alors je sais pas si vous avez regardé, l'émission de Yann Barthès, la quotidien. Ils ont passé il y a pas très longtemps ils ont une émission sur les stars. Enfin, ils ont une partie de l'émission où ils parlent des stars. Et donc ils ont passé les junkets des deux acteurs là. Et pour dire à quel point le film les passionnait, ils ont passé leur temps dans le junket à déconner, à raconter n'importe quoi et à parler de tout sauf du film. Ce qui prouve qu'eux-mêmes ne sont pas passionnés par le
film. Comme
sujet,
il n'y a rien à dire fondamentalement.
Ouais,
hein.
Tu sais que ces choses-là, tu peux les voir sur Internet aussi, tu n'es pas obligé d'aller chez Barthès. Hein.
Oui, mais enfin, non, il m'arrive de regarder son émission, c'est pour ça que je cite ma source.
Mais le truc que je veux dire, c'est que ça me fait rebondir sur un truc qui est dans le film. C'est que le personnage de Ryan Reynolds, c'est une version light de Deadpool en fait, parce qu'il fait il fait son charme, il fait la blague, il fait que des conneries comme ça. C'est comme ça tout le temps.
Ouais.
Le temps qui reste là, hein, tu vois. Ouais. Donc le truc c'est que tu te dis, enfin le film il est même pas vraiment.
C'est un peu comme George Clooney dans le film dans l'espace là, avec
Gravity.
Ouais, dans Gravity, ouais.
Non.
Le film dans l'espace, comment ça s'appelle, le bidule.
C'est ça, le bidule.
Non, non, mais, sérieux.
Gravity, c'est quand même un autre niveau, merde.
Ah bah oui, non mais ouais. Je veux dire, Clooney non plus, il est pas là très longtemps dans le film.
Ouais, ouais. Voilà, on a spoilé Life et Gravity d'un seul coup comme
non,
ça.
Non, mais il a bien résumé, Stéphane. C'est vraiment, c'est un pur produit, c'est un deal.
Gravity,
c'est un deal.
Que tous nos auditeurs l'ont écouté et l'ont vu.
Bah, je pense bien,
Life ou
alors Life, donc de toute façon maintenant qu'on va vous la spoiler, ça vaut plus le coup d'aller le voir. Voilà. Puis de toute façon ça valait pas le coup d'aller le voir de base.
Exactement. On se demande même, tu vois, mais bon, comme on était en train de manger des chips, on était bien, on a vu la lumière, on se demandait même si ça valait le coup d'en parler, mais finalement
c'est,
ah bah, allez,
c'est l'actu,
allons,
hein, bah,
on
d'ailleurs,
en parle
ça
vite,
sort,
hein, on en parle
ça
vite.
Sort la semaine prochaine Life de Daniel Espinosa et franchement ça donne envie,
avril,
hein, tu vas y aller, Rafik.
J'y crois,
on avait bien compris. Ok, bon bah alors passons à la suite, ça risque d'être plus amusant. restons dans les chefs-d'œuvre. Puisque là, on atteint des sommets dans les suites, puisqu'on en est au 8e opus de Fast and Furious. Ça vient de sortir.
Fast and Furious 8.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Alors, Fast and Furious, qui est le nouveau, le premier volet d'une nouvelle trilogie, qui est la trilogie qui boucle donc les Fast and Furious, parce que en fait, leur trip maintenant, c'est de faire 10 films. Et ça arrête après, soi-disant. Et le truc, c'est que c'est là où tu te dis. Je vois déjà ta question la question dans tes yeux. Est-ce que tout n'a pas déjà été raconté avec les deux premiers Fast and Furious?
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tout n'a pas déjà été raconté avec les deux premiers Fast and Furious?
Eh bien non.
Avec le premier quart d'heure du premier.
Eh bien non. Non, David, figure-toi qu'il y a des choses à raconter cette fois.
C'est vrai.
Cette fois, alors je pense que nos auditeurs, alors on publie là, ils l'ont vu. Hein. Cette fois,
ils ont été le voir day one, première séance.
Quoi. Évidemment, c'est
pas
obligatoire. Et on sait déjà que ça va faire le petit milliard tranquillou. Et comme le précédent. Alors, spoiler alerte, il n'y a toujours pas, il n'y a plus, Paul Walker dans le film.
Il est mort.
Il est mort, mais il n'est pas mort dans le film. Ils auraient très bien pu le faire revenir, tu vois.
Ah oui, façon, en image de synthèse, façon Leia,
façon dans... Gollum Bogos.
Voilà, c'est ça.
Et voilà, comme ils
Gollum Bogos.
C'était un peu ça dans le précédent, non? Et je veux dire, il était déjà mort dans le précédent, la plupart de ses plans, c'est pas lui. Hein.
Ouais,
bref,
ouais.
Donc là, je précise, ils sont pas allés jusque-là. Qu'est-ce que ça raconte Fast and Furious 8? Alors, c'est intéressant. Ça raconte en gros comment Vin Diesel est manipulé par Charlize Theron, qui est très méchante. Je prends encore une fois l'accent de Yannick pour. C'est toi qui devrais être. C'est dommage que tu l'aies pas vu, quoi. En fait.
Bah ouais, mais j'ai pas vu. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pas eu le temps de le voir.
Et en fait, en gros, c'est Charlize Theron qui manipule Vin Diesel, en fait, pour qu'il se retourne contre sa famille. Ouvrez les guillemets. Et fermez les guillemets juste après.
La familia.
La familia, tu vois. Pour, comment dire. Pour mener quasiment une nouvelle guerre mondiale, puisque c'est ça.
Ça a l'air bien.
Voilà. Alors, le gros avantage, c'est que bon, on est quand même dans une logique où c'est encore un Fast and Furious habituel, donc avec les mêmes scènes à la con, les mêmes moments tribaux à deux balles là. Mais t'as deux choses que je retiens, c'est que un, tu vois beaucoup plus The Rock que dans le précédent.
Ouais,
parce que quand même l'histoire de foutre The Rock dans un lit d'hôpital pendant deux heures, non merci quoi. Et c'est quand même The Rock, il est quand même beaucoup plus rigolo que Vin Diesel, hein, on va dire.
Oui, il est chouette.
Ouais, ouais. Et puis t'as une très belle scène d'évasion de prison, ça te plairait, Yann. Il y a une très belle scène d'évasion de prison.
Bien, Roi Scorpion.
Non, mais...
c'est celle-là que je fantasme.
Donc t'as une très sympathique scène dans papaoutage en prison avec lui et Jason Statham. Et puis t'as une scène en fait qui je pense est pompée mais complètement sur Watch Dogs, qui est une scène qui se passe à New York où en fait
Watch Dogs c'est le jeu vidéo,
de chez Ubi. En gros il y a une scène de hacking où Charlize Theron en fait se met à pirater toutes les bagnoles, je crois que c'est elle, ouais, ou ses acolytes, qui se mettent à pirater toutes les bagnoles en fait, dans les parkings, dans les rues de New York, et en fait ça fait un carambolage gigantesque pour essayer d'arrêter un diplomate russe ou un truc comme ça, quoi. Et t'as Vin Diesel au milieu qui monte sur les bagnoles avec son bouclier anti-bastos à 50 mm, tu vois, et trucs comme ça. Et puis voilà, donc ça fait une grosse scène qui fait plein de bruit. Plein de casses de tôle froissée ma foi c'est une scène relativement rigolote et inédite on va dire au cinéma, mais après il faut compter sur le talent de notre ami F. Gary Gray qui est donc le réalisateur de ce film là.
Il a fait quoi d'autre, monsieur?
F. Gary Gray, il a forcément fait des films que t'as vu. Il a fait Un homme à part avec Vin Diesel déjà. Mm-hmm. Il a fait Braquage à l'italienne, le remake de Italian Job avec Charlize Theron.
Ah oui, j'avais vu ça.
Voilà.
C'était pas mal d'ailleurs.
Ouais, c'était sympathique. Il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Friday.
Son chef-d'œuvre.
La comédie.
Son chef-d'œuvre avec Ice Cube.
Là, David nous regarde avec des gros.
Jamais vu Friday?
Non, mais j'ai.
Ah, c'est une des comédies de Smoker culte, gars.
Il faut que je regarde ça.
C'est la comédie black South LA.
Mais il y a des choses que je rate.
Des années 90.
Des années 90. Il a fait
ce film complètement incroyable, mais moi je trouve hilarant, avec Gerard Butler en mastermind de Serial Killer
Mastermind,
qui s'appelle Que Justice Soit Faite.
Ça c'était magnifique.
Alors c'est Law Abiding Citizen, c'était avec Jamie Foxx.
Pas
et
vu.
C'est un film qui est
énorme.
Mais hilarant parce qu'en fait, en gros, ça se veut être un espèce de Seven un peu procédurier, quoi. Et bah, un peu, tu sais, parce que le mec est un peu diabolique et
ça
tout.
Ça reste
quoi.
Assez bourrin dès le départ.
Non, mais bien sûr. Et le truc, c'est que le type, c'est censé. Enfin, Gerard Butler, c'est censé être un personnage hyper intelligent, hyper suave et tout, quoi. Et en gros, il a des techniques de manipulation qui, je pense, dépassent un peu l'entendement, quoi. Ça, par exemple, t'as un moment donné, les mecs se disent, mais comment il va faire pour frapper ce type alors qu'il est en prison? Il a forcément un coup d'avance, tu sais, c'est comme si c'était un grand joueur d'échecs. Et le mec, en fait, il se ramène à. C'est une scène dans un enterrement. Et le mec, dans un cimetière, donc. Et le mec se ramène avec une mini bagnole, tu sais, à la. Et avec un mini gun dessus, et il leur tire dessus. Donc voilà,
c'est surréaliste.
C'est surréaliste. Tu sais, mais c'est surtout, en fait, le grand écart entre. Je te fais un grand film intelligent, soi-disant, tu vois, sur un mec qui a forcément trois coups d'échec d'avance sur ses ennemis, tu vois, ok, qui veut se venger et qui utilise la justice pour, enfin, qui veut tuer des gens qui ont. Je crois que son trip à lui, c'est que sa femme elle est morte et qu'ils ont pas, comment dire, je me rappelle plus trop, mais ils ont pas enfermé le type qui a tué sa femme, donc du coup il veut se venger. Et il a soi-disant trois coups d'avance, et les trois coups d'avance, c'est une voiture miniature qui arrive avec un minigun et qui shoot tout le monde, tu vois. Donc un grand film d'intello.
Non mais il a fait la bio toute pourrie d'NWA aussi.
Mais ça, je ne l'ai pas vu.
Ah oui, c'est vrai, qui était catastrophique, ouais. Straight out of Compton. Ouais.
Mais qu'il a bien placé. Il était déjà bien placé. Hein. Enfin, il a été assez vite lancé avec le négociateur.
Ah oui.
À la fin des années 90.
Le négociateur.
Déjà bien du flan.
C'est Gene Hackman et Will Smith, non?
Mais du flan adapté.
Non, je comprends.
Avec Samuel Jackson et.
Ah oui, Samuel Jackson et.
Samuel Jackson, tu vois, le sosie de.
C'est Kaiser Sosie là, non? C'est pas lui.
Ah oui, Kevin Spacey.
Kevin Spacey en face.
C'est ça. Bon, j'étais pas loin.
Ouais, et le truc. En fait, c'est que donc, bah, c'est après, très honnêtement,
Samuel Jackson, tu l'avais vu dans Blade, rappelle-toi.
Non, dans l'épisode 1, Star Wars épisode 1.
En tout cas, ce n'est pas vraiment. Enfin, c'est un film de F. Gary Gray, mais objectivement, ce n'est pas vraiment un film de F. Gary Gray. C'est un film de Vin Diesel, n'est-ce pas?
Voilà.
Qui joue donc le méchant dans celui-là, quoi.
Il est méchant maintenant.
Voilà, il est méchant et enfin, il est méchant, mais il est pas vraiment méchant. On le manipule donc pour qu'il soit méchant. Et eh bien, ma foi, que dire? C'est moi, je trouve ça un poil plus rigolo que les comment dire les 7 précédents.
Non, t'as pas vu le 5.
J'ai vu le 5. Ouais.
Le 5, c'est un chef-d'œuvre.
Fast and
Furious 5, c'est le meilleur de tous. Il est imbattable. Alors, et pour l'instant, il n'est pas battu.
Comment tu utilises le mot chef-d'œuvre là dans ce cas?
À tout niveau, c'est fun, c'est badass, c'est cool. Et franchement, les scènes d'action dans Fast and Furious 5, elles débourrent, elles sont bien.
C'est ce que je voulais dire.
Le problème de Fast and Furious 5, c'est que moi, je retiens que tu me diras, il y a sûrement ça dans le 8. Hein. Mais moi, je me rappelle juste de cette scène dans Fast and Furious 5 où il passe 20 minutes.
C'est ça qui est génial.
Attends, 20 minutes à échafauder un plan pas possible pour faire leur braquage à la fin. Les mecs arrivent devant la banque, tu vois.
Et ça marche pas.
Merde, il y a un garde, on n'y avait pas pensé. Allez hop, plan B.
Plan B, on y va comme des bourrins. Voilà, mais c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est ça qui est bien dans Fast and Furious.
En attendant, tu tapes quand même les 20 minutes.
Mais Fast and Furious, de toute façon, c'est une licence juste qui est prétexte à faire des films d'action qui vont dans le sens qu'a envie d'écrire les scénaristes.
Je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas de réel fil, je ne me les inflige pas
en fait les Fast and Furious. J'avais vu le premier avec Steph en projection de presse. C'était à l'époque où on allait vraiment on y croyait encore à ces films là mais de toutes les franchises qui ont dominé le box office ces 10 dernières années, et celle-ci elle l'a clairement monstrueusement dominé, c'est la seule qui semble vraiment être une réponse des studios plutôt qu'une décision des studios, des majors. C'est-à-dire que vraiment, c'est le public. Là, pour le coup, on peut être sûr que c'est le public qui fait vivre Fast and Furious.
Il y a des vrais fans. Moi, j'en connais.
Non, de toute façon, tu vois les résultats délirants. Tu vas sur YouTube, tu regardes n'importe quelle chanson tirée du film, la vidéo monte à 2 milliards immédiatement. Enfin, on n'est pas dans la configuration Marvel, DC et autres où on vend une certaine soupe au public et on lui monte le bourrichon jusqu'à ce qu'ils se décident à y aller. Là, de toute façon, les mecs, ils sont prêts à y aller. Enfin, il y a toutes les familles Lopez de la Terre qui chaque année, elles ne vont au cinéma.
C'est des copains encore.
Parce que ça fonctionne.
Tu les connais pas?
Non, mais parce que ça fonctionne sur
la calotte de tes morts.
La calotte de ses morts.
Non, ah, c'est pas parce que c'est une famille, non, c'est deux familles de gitans qui se foutent sur la gueule.
Ah, mais oui, mais je vois, mais ça fait le bad buzz sur.
C'est le public de Fast and Furious, quoi. Et ces gens-là, chaque année, ils vont en salle une fois, c'est pour voir ce truc-là, quoi.
Alors, les loupés, c'est Yannick. Ouais, et moi, parce que moi, je suis un grand défenseur du truc, mais bon, évidemment, pour me marrer. Mais oui, t'as raison dans l'idée que c'est effectivement pas un truc de studio. C'est un truc qui vient intelligemment, d'ailleurs, de Vin Diesel. Il s'en est pas caché. Vin Diesel a accepté de faire Fast and Furious 4 à l'époque, alors qu'il était sorti de la franchise, en disant au type, si je reviens, on fait la thématique que je veux. C'est lui qui a instauré la thématique de cette idée de famille, de réunir tous les personnages de chaque épisode, de faire, et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Alors, je sais pas si ça a été un succès ou pas, mais c'est ce qu'il a essayé de faire sur XXX2 de la même manière. Le dernier Triple X,
ça a pas marché, mais.
Non, ça a pas marché, mais c'est la même logique. Démarche. C'est-à-dire, reviens et j'instaure une logique de familiale de la même manière. Alors là, avec 50 XXX dans le film. Et puis, ça fonctionne. Il a raison. C'est pour ça que je ciblerai pas. Laisse-moi finir une seconde. Je ciblerai pas les Lopez, je ciblerai toute une frange de la jeunesse. Parce que qu'est-ce que c'est les Fast and Furious? Ça marche sur un terreau d'antisystème, qui est le truc à la mode depuis un certain nombre d'années, qui est en train de monter des couches populaires. C'est-à-dire, c'est tous ces antisystèmes qui vont en même temps aller se battre pour choper les dernières Nike et le dernier truc à la mode. Donc t'as tout ce paradoxe-là qui est un retour à une forme de communautarisme, mais qui est pas la famille stricto sensu. C'est, on est là, on est cool, on a des super caisses, des belles nanas, des super fringues, et on nique le système. Il a trouvé ce truc tout con, et c'est super fédérateur aujourd'hui. Et il a plus besoin de, on s'en fout de l'histoire, tu vois. C'est...
Moi, le problème que j'ai avec ça, le souci que j'ai avec ça, c'est qu'il y a quelque chose de profondément malhonnête, parce qu'on sait très bien qu'il est revenu avec le 4 parce qu'il avait plus de franchise sous la main, tu vois. Il dit que ça marchait pas, etc.
C'est cynique, c'est sûr, hein.
Bah oui, mais c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, quand tu le dis, quand tu précises que c'est une série cynique, une saga cynique, enfin moi, ce que j'avais fait sur mon article il y a 2 ans pour le 7, tu te prends des volets de bois vert, parce qu'en fait, d'un seul coup, tu te rends compte que... C'est-à-dire que voilà, tu disais, c'est des films d'action actuels. Moi, le problème, c'est que je pense que tout le monde à cette table a plus ou moins grandi avec les films de McTiernan, ce genre de choses. Donc pour moi, le cinéma d'action...
Ah bon, on est d'accord.
Il est à ce niveau d'ambition. Donc j'ai un peu de mal, peut-être que je devrais un peu lâcher prise, mais j'ai un peu de mal à lâcher ce truc en se référant en tout cas. Et même si je ne demande pas à Fast and Furious d'être de ce niveau-là, quoi, j'aimerais bien qu'en fait, en gros, attends, j'aimerais bien qu'on laisse-moi terminer moi aussi.
J'ai rien dit.
Voilà, non, parce que je te vois en train de lever les yeux au ciel. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien, si tu veux, qu'au moins on me fasse pas 3 épisodes entiers sur l'amnésie de comment elle s'appelle, de Michelle Rodriguez, dont je me barre les couilles complètement parce que j'arrive même pas à tenir sur ce genre de plot. Dans un épisode de 24 heures, voilà. Donc le truc, si tu veux, c'est que... Attends. Donc le truc, si tu veux, c'est que à partir de là, qu'est-ce qui reste? Il reste les scènes d'action,
bah,
tu vois.
Qui sont bien.
Voilà. Et ouais, elles sont un peu hachées, elles sont un peu machin. Et puis moi, j'ai tendance à penser que j'aimerais bien avoir des persos qui tiennent vraiment et pas justement ça. Une espèce de rattachement cynique au truc en disant bah voilà, Vin Diesel il va trahir sa famille, l'autre elle met trois épisodes à se rappeler que comment dire quelle est la femme de Vin Diesel, machin. Enfin, tu vois, tout le monde disait à l'époque à la sortie du set. Ah, enfin, il donne une sortie de bon goût et tu vois, honorable au personnage de comment il s'appelle, de Paul Walker, qui est mort, tu vois. Et moi, en fait, je trouve que c'est un zéro enjeu, quoi. C'est-à-dire, c'est le mec, en fait, il dit, je viens d'avoir un deuxième gosse, je m'en vais, je me retire du business. Ok. Bah, salut.
Non, mais il y a un côté série télé, quoi, ou sérial, quoi.
Évidemment, mais là, tu y mets trop de... Trop d'attente sur un truc qui ne correspond pas à ça. Moi, je veux pas me faire le défenseur 1 de Fast and Furious 8 parce que je l'ai pas vu. Et on sait très bien pourquoi j'aime les Fast and Furious. C'est parce que je me marre. Moi, quand je vois un Fast and Furious, je vois ça comme quand j'allais voir Under Siege au début des années 90. Donc, j'en ai rien.
Tu te sens proche de Vin Diesel?
Pas spécialement. Je sais pas pourquoi tu me sens comme là.
Parce que je pense qu'il fait référence à ton crâne lui.
Ah, je disais ça. J'aurais préféré que tu dises The Rock, à la limite, c'est pareil, mais. Mais il faut, voilà.
Tu te sens proche de The Rock, alors.
Moi, ce qui me fait marrer, moi, je m'en fous des enjeux dans Fast and Furious, comme je monte. Et évidemment, les scènes d'action ne seront jamais au niveau. C'est pas une question d'époque ou de s'attacher à un truc ou pas. Aujourd'hui encore, quand on se met Predator, on voit bien que c'est 1000 fois mieux foutu que la majorité des films d'action qu'il y a aujourd'hui. Moi, je vais pas les voir pour les mêmes choses. Je vais pas les voir pour l'histoire. Je vais pas aller voir pour tout ça, je vais voir parce que les persos sont tellement débiles qu'ils me font rire, et parce que je trouve que c'est un miroir tellement excessif et caricatural du monde ridicule, du culte de la personnalité, du pognon qu'il y a aujourd'hui, que j'hallucine. Moi, c'est une forme d'hallucination live à chaque fois que je vois. Bon, ça a été battu par Triple X2 qui est quand même atteint des sommets qui sont, ou le 3, pardon, qui sont indépassables.
Le 2, c'était Ice Cube.
Voilà, mais le Triple X3 là, c'est tellement hallucinant qu'à côté de ça, Fast and Furious, c'est des chefs-d'œuvre. Mais bon, voilà,
faut. Fred
Atkin.
Ouais, c'est ça. Faut savoir pourquoi on les voit. On les voit pas pour autre chose. Alors après, on peut s'indigner du fait que ça fasse un milliard chaque année quand ça sort. Oui, ça prouve qu'il y a une, ça prouve qu'il y a une attente et ça prouve que ça traduit aussi quelque chose de ce monde aujourd'hui. Voilà. Après, on adhère pas. Moi, je m'en fous. Moi, je vais le voir pour me marrer. C'est tout.
C'est ce que je disais la dernière fois quand on parlait de la vie de Billy Lynn, c'est qu'il me fait marrer Vin Diesel parce que t'as un côté, je te dis, il y a cette espèce de d'image en fait de d'acteur, comment dire, bouddhiste, tu vois, qui n'est qu'un qu'avec la nature et puis à côté de ça t'as juste le dernier fringue à la mode, le dernier les dernières converses à la mode, la dernière lunette de kéké et tout dans Fast and Furious ou Triple X, bref. Mais en tout cas, bon, pour moi personnellement, me suis un peu plus marré sur Fast and Furious 8 parce qu'il y a un peu plus The Rock.
Et comme t'as chié sur tous les épisodes précédents, je pense que je vais trouver ça génial et que je vais jouir dans la salle.
Si ça se trouve, ça va être l'inverse. Si ça se trouve, tu vas m'appeler, tu vas me dire tu te fous de ma gueule.
C'est le plus nul des Fast and
Furious.
Mais
bon, voilà. Et globalement, je les ai pas tous vus, j'ai pas vu le 6 en fait. Et étrangement, j'ai tout compris. C'est quand même, c'est là où tu te dis c'est quand même bien foutu quoi. Mais bon voilà, je crois qu'on a fait quand même assez long hein, David, donc on peut passer à la chronique suivante hein, quand tu me regarderas dans les yeux et que tu me diras oui.
Mais avec plaisir va, hein, parce que là vous commencez à me perdre un petit peu.
Voilà. J'aurais pu en parler toute la nuit.
Et donc passons au dernier sujet de la soirée qui est un sujet passionnant puisqu'on parle de la trilogie Ninja.
La
Ninja.
Trilogie Ninja.
Bon alors vas-y,
parle-nous. C'est quoi la trilogie Ninja?
C'est trois films.
C'est trois films. Trilogie. Tu devrais faire une nuit au max. Tu vois, ça te ferait une
Ça
nuit.
Pourrait. On bah, pourrait, puisque a priori, il y a un coffret Blu-ray.
Ouais, tout à fait.
Qui est beau.
Ouais, qui est assez beau. Et bon,
qui est en promo chez nos amis d'Amazon.
Ah, ça y est. Alors, vas-y.
35,50€.
Ah.
5.
Non, faut avoir envie quand même. Écoute, ça fait quand même
un
peu plus de 10 euros le film.
Ouais. 10 euros
pour
le Blu-ray.
Pour Shokosugi, alors. Pour ouais. Shokosugi. Voilà, et c'est quoi? C'est trois films de la canon?
Oui.
Les titres français, parce que moi je les connais en anglais.
Alors, c'est L'Implacable Ninja, voilà. Ultime Violence et Ninja 3.
Voilà, et à savoir Enter the Ninja en anglais, Revenge of the Ninja et Ninja 3. The Domination.
Voilà,
très très beau voilà. Donc le premier c'est réalisé par Menahem Golan avec Franco Nero. Le deuxième.
Alors, ça vient de sortir, hein. C'est sorti le 28 mars.
Oui,
hein,
les films ils ont 40 ans. Hein.
Ouais, non mais je veux dire le Blu-ray est tout récent. Il est équipé, il est bien équipé d'un anglais en Dolby Digital et d'un français. Alors c'est du stéréo, hein, c'est du Dolby Digital 2.0. Hein.
Mais très
voilà,
propre,
avec
hein,
des sous-titres très clean. Très clean, ouais, voilà, ouais. Très clean.
Avec il y a un petit livret de l'ami Marc Toulek. Spécialiste S Ninja
de la Canon,
voilà, de la Canon en France, quoi, qui était, je pense, qui a écumé tous les, comment dire, tous les marchés du film et qui a vu tous les films de la Canon, même ceux qui sont jamais sortis en France.
Il doit avoir un nombre incalculable d'affiches de films jamais faits avec du ninja dedans, voilà. Ce qui récupérait tout.
Donc ce n'était que légitime qu'il se fasse le livret, quoi.
C'est logique.
Et ancien rédacteur en chef d'Impact, hein, aussi, au cinéma, magazine du cinéma d'action. Et Feu Impact. Et bah voilà, alors que dire sur les films, j'ai un peu envie de dire en gros, parce que là on a fait un peu le tour, mais que dire sur les films, c'est quand même des films assez magnifiques, moi je trouve. Si tu veux expliquer aux gens ce que c'était vraiment parfois les années 80, donc le cinéma d'action des années 80, il y a un truc qui est un peu, moi je trouve, comment dire, un petit peu malhonnête sur ce coffret Blu-ray, mais gentiment malhonnête, c'est que c'est des mecs qui te parlent d'une trilogie culte qui a réinventé le cinéma d'action. Et
ouais.
Le terme est peut-être un petit peu galvaudé, on va dire. C'est-à-dire que c'est quand même des très gros plaisirs coupables, hein, avant de commencer. Et puis c'est des films, c'est des films déviants, quoi. C'est des vrais, c'est du vrai cinéma bis pur et dur, quoi. Avec des mecs qui surjouent quand ils se font tuer, avec Franco Nero qui se fait doubler en anglais par un autre acteur parce qu'il avait un accent, comment dire, à couper au couteau, un accent italien à couper au couteau.
Avec des pitchs qui ont l'air d'avoir été écrits en mélangeant des cartes aussi. Hein,
ouais, dire. Mais c'est
le pitch de Ninja 3.
Non, mais ça, non, celui-là,
non,
il est génial.
Attends, réserve pour la fin, celui-là. Parce que celui-là,
il est brillantissime. À ce niveau-là, c'est t'explique tout, quoi. Non, le truc, c'est que t'as déjà, bon, quand tu commences, si tu veux, t'as parce qu'il y a d'autres ninjas aussi qui sont sortis. T'avais le ninja blanc avec.
Alors ça, c'était ma série préférée, les American Ninja.
American Warrior, c'était déjà le bordel en plus, tu vois, parce que tout n'était pas des trucs de ninja, mais t'avais.
Non, ça avait été le bordel parce qu'ils les avaient traduits par Warrior en France, alors que c'était American Ninja 1, 2 et 3.
Voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y en avait un des American Warrior qui était pas du tout dans un.
Qui était
copain d'American Ninja qu'ils avaient sorti en France et qui a rien à voir avec ça.
Et le truc, c'est que en fait, en gros, le truc qui se passe, si tu veux, c'est que là, bon, c'est pas ces films-là, mais le truc en fait qui s'est passé, c'est que sur ces trucs-là, c'était donc comment il s'appelle, Mesdames Golan, qui est allé voir Franco Nero, qui lui a dit, est-ce que tu as déjà entendu parler des ninjas? Alors, Franco Nero débarque, il dit, mais de quoi tu me parles? Il fait, les ninjas, c'est les assassins, machin, etc., etc. Donc il commence à lui faire tout le topo. Il lui file son bifton, parce que c'est surtout pour ça que Franco Nero est venu, je pense, hein, c'est pas pour l'amour du scénar. Et du coup, en fait, peut-être, en gros, t'as Franco Nero qui se retrouve donc à se faire doubler la voix parce qu'il avait son accent, à faire du nunchaku, mais comme moi, quoi. C'est-à-dire, en gros, hein, en n'arrivant même pas à, comment dire, à faire à le faire passer sous son aisselle, quoi. Il est évidemment, moi, je pense, doublé la plupart des plans, sauf les plans où on voit son grand regard minéral qui traverse l'écran de son charisme absolu, quoi. Bah, attends, merde, c'est quand même Django, faut pas déconner, quoi, tu vois. Et voilà, donc ça, c'est le premier film. T'as des mecs, je te dis, c'est relativement sobre après, comment dire, quand tu te tapes après, donc Revenge of the Ninja, hein, qui est, comment t'as dit en français, Ultime Violence,
ouais,
avec Shokosugi. Shokosugi qui est le spécialiste donc des films de ninja, parce que c'est l'acteur des films de ninja, hein, qui apparaissait en tout cas à cette époque-là, quoi, qui est là le héros de Ultime Violence. Et qui se retrouve juste tout simplement à se battre contre mafieux, breakdancers, trafiquants de drogue à Los Angeles, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment fait, cadré au milieu, hein, tout mou. Et voilà. Donc celui-là, bon, il est un peu moins sympa.
Franco
que les autres,
Nero,
mais par contre,
t'en as beaucoup parlé là, mais pour recadrer pour ceux qui, comme moi, voyaient
Franco
pas,
Nero,
avant pas l'image.
Tout, bah, avant tout, c'est une moustache.
C'est ça.
Et des yeux.
Alors
des yeux,
alors voilà, très bel homme, hein, dans les années 50-60, je pense.
Ah, complètement.
Alors, si vous voulez une référence.
Non, mais je me moque, mais moi j'adore, hein, c'est un mec hyper charismatique.
Alors, il a fait énormément, a priori, de western, hein, et donc, c'est le Django d'origine. C'est ce que tu as dit. Et si je devais le. Enfin, je trouve qu'il a des faux airs. Enfin, des faux airs, je devrais pas dire ça. Je vais me faire engueuler, mais je trouve qu'il a une petite ressemblance avec Terence Hill dans sa jeunesse. Après, écoute, ça a dévié.
Écoute, apparemment, sur Django, il a été choisi parce qu'il était censé ressembler à Clint Eastwood. Hein.
Terence Hill ressemblait aussi.
C'est intéressant. C'était juste après une poignée de dollars et tout,
ouais,
ça.
C'est plus Terence Hill qui a joué sur les traces de Franco Nero à l'époque.
Tu vois, c'est quand même les degrés de séparation et de dégénérescence charismatique.
C'est vrai qu'il a une très belle moustache.
Sur la question des ninjas, il est vraiment intéressant de regarder le documentaire électrique Boogaloo. Dont au moins un quart d'heure est consacré à ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Electric Boogaloo, c'est le docu sur la canon.
Le docu,
il y en a eu deux, un docu.
Le docu dans lequel les Golden Globus n'ont pas voulu intervenir. Ils ont décidé de faire leur propre
documentaire.
Ils ont piqué l'idée.
Voilà, quand ils ont vu qu'un mec allait le faire, ils ont décidé de faire leur propre docu et de sortir avant lui.
On en avait parlé.
C'est bon.
À la canon, quoi. Et donc, il y a un quart d'heure complet qui est fait sur les ninjas, parce qu'effectivement ça synthétise la manière de procéder des gens de la canon, quoi, de leur approche du cinéma, qui est une approche en fait bordélique mais en même temps enfantine, et c'est ça qui séduit. Moi, c'est des films, je tiens pas 5 minutes, hein, devant, je l'avoue, mais le fait que ces films existent me fait plaisir, parce que c'est de la mentalité de bac à sable. Et si on mélangeait ça avec ça et ça, ça va être trop cool, quoi. Non, c'est pas cool, c'est juste ridicule. Ouais. Mais il y a quelque chose de tellement sincère dans la débilité que...
on renvoie aussi nos auditeurs qui ont peut-être pas écouté cette émission là. On avait fait une émission sur la canon, bah, justement,
sûr,
à l'époque de la sortie du premier docu, en fait, de Go-Go Boys.
The Go-Go Boys,
voilà. Ouais. Et le truc, c'est que là, tu nous emmènes sur le troisième film, donc, n'est-ce pas, Ninja 3,
alors,
qui est quand même un habile mélange.
Non, mais il y a déjà dans le 2, tu parles de breakdancers, c'est parce qu'ils venaient juste de faire le carton avec Break Street 84. Ils se sont dit, on va mettre aussi des breakdancers
C'est le look des mecs, voilà. Tu vois, c'est ça surtout. Mais le truc avec Ninja 3, c'est que donc, c'est un habile mélange entre film de ninja, en premier lieu, c'est normal, ok, film d'exorcisme, okay. Donc, là, déjà ça commence à se corser, et film d'aérobic breakdance, flash dance donc, flash où dance. La nana en fait est une fan d'aérobic et elle danse pendant qu'un sabre...
Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la gamine de l'exorciste, hein, accessoirement, de ce qu'elle est devenue.
Lucinda Dickey. Moi je parle de l'actrice dans Ninja 3.
Et oui, toi, mais moi je te parle de l'actrice de l'Exorciste qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Linda Blair, voilà.
Lucinda Dinkey.
Une femme employée des télécommunications de Phoenix et passionnée d'aérobic vient en aide à un assassin ninja plutôt efficace. Malheureusement, il meurt devant ses yeux en lui léguant son katana. Cette dernière arme se révèle possédée par un esprit séculaire conférant des pouvoirs d'assassin et une passion pour les hommes fortement poilus.
C'est bien. C'est très très bien. Bon, et je rappelle juste
rajouter la fin.
Non,
c'est dans la fiche wiki.
Je me permets de rajouter que l'implacable ninja est sorti, je replace parce qu'on l'a pas dit, en 1981, donc c'est les films qui ont bientôt 35 ans, voilà.
Ça se voit pas du tout.
Ça, j'imagine. Voilà, que la suite est sortie en 83 et que le troisième opus est sorti en 84. Donc c'est vraiment la première moitié des années 80, on est à fond dans le breakdance, dans le flashdance.
J'ai une question.
Et le film, il est à fond.
Ah. Ouais. Ils ont l'intention de faire la même chose avec l'American Ninja? Ça m'intéresse beaucoup plus.
Ça serait bien. Écoute, je crois qu'il y a, nos amis de chez Ecstasy au Film qui sortent un des. Alors je sais plus si c'est un American Warrior. Je m'excuse auprès
de. Non, American Warrior, c'est le titre français donné au American Ninja. En fait, il y a American Ninja qui était sorti, qui au cinéma en France a été appelé American Warrior. Puis après, il a fait un film qui s'appelait Avenging Force, qui a été traduit American Warrior 2. Et ils y ont été emmerdés parce que quand American Ninja 2 est sorti, je sais plus comment ils l'ont appelé celui-là. Le ninja blanc, ouais, voilà, c'était ça, exactement. Ouais. Donc ils se sont mélangés les pédales. Mais c'était la grande.
Donc en fait, le truc, c'est qu'en fait, ils sortent, voilà, je suis en train de regarder, ils sortent American Warrior 2, 2. Le chasseur.
Oui, bah celui-là, c'est pas du tout un American Ninja.
Et bah il sort.
Ah bah c'est des connards.
Mais non, dis pas ça.
Non mais je rigole. Il faut qu'ils sortent.
Ils vont le sortir, ils vont le sortir, t'inquiète pas.
Michael Dudikoff, c'est ça. Mais c'est ma jeunesse. Ben c'est la période de Chuck Norris, tout ça, c'était génial, quoi.
Voilà.
C'est l'époque où tu faisais des remakes avec tes copains. À
exactement,
Toulouse,
hein. On faisait des remakes à Toulouse en vidéo et on copiait tous ces films-là, quoi. Voilà, c'était génial.
Si vous êtes gentil, on va récupérer ces vidéos-là et puis on va les mettre sur le net.
Ça, okay. Ça vaut le coup, à mon avis.
Yannick, je vais négocier les droits avec Yannick à la fin de l'émission. Voilà.
Ok, très bien. Bah, on arrive au bout alors. On vous recommande donc le coffret trilogie ninja.
On vous recommande résumons.
Oui. On
vous recommande Life si vous avez pas vu Alien.
Non, on vous recommande pas Life. Même si vous avez pas vu Alien,
on vous recommande de regarder Alien.
On vous recommande Fast and Furious 8 même si je l'ai pas vu.
Voilà. Ouais, parce que c'est bien. C'est bien, Fast and Furious.
Et surtout, on vous recommande la trilogie ninja, ne serait-ce que pour Ninja 3. Qui est, voilà, je pense, un des films les plus gonzo que vous verrez de votre vie.
Et après, donc voilà, après Ninja 3, vous pouvez retourner à Léviathan et boucler la boucle.
Voilà. Et mal. Et Screamers aussi, avec Peter Weller.
Ah, mais ça, c'était bien.
Ouais.
C'était bien mieux.
C'était bien mieux.
Probablement du gay qu'on part pas, là, mon gars.
Il va falloir faire un spécial Peter Weller un jour pour parler de toutes ces magnifiques productions. Et il en a fait des bonnes, quand même. On arrive déjà au bout de ce Capture My Geek Dog qui était quand même assez.
C'est chargé.
Chargé. Puis alors Stéphane, t'avais un gros programme là. Bah,
c'était tout pour toi. Il avait vu tous les films.
Il a tout vu. Il a tout vécu. Merci Yannick d'être venu ce soir. Merci Rafik de nous avoir rejoint. C'était sympa que tu sois là.
J'ai rien à faire là chez moi. Ouais.
Et puis merci.
C'est n'importe quoi cette émission.
On se fait plaisir. Merci Stéphane. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien. Et puis en attendant, allez au cinéma. Hein. Il y a quand même des bonnes choses à voir sur les écrans. On en parle.
Ouais, étrangement, on n'en a pas parlé.
Mais on en parle régulièrement, c'est ça. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, CaptureMac.net, Capture le Mac.
5 étoiles sur iTunes.
Voilà, 5 étoiles sur iTunes, j'allais oublier tout ça. C'est vrai qu'il faut continuer à nous encourager sur les réseaux sociaux, puisque Rafik y est, Beats y est aussi d'ailleurs. Yannick, tu es sur les réseaux sociaux, tu as un Twitter?
Non, me pose pas ces questions, non, je supporte pas Twitter. Je lance mon émission sur Facebook régulièrement.
T'as quand même remarqué que tu peux pas le faire parler en 140 caractères.
Non, c'est impossible. Et puis Stéphane est aussi sur les réseaux sociaux. Puis on embrasse de loin les amis Arnaud et Julien,
qui sont là en esprit.
Exactement, voilà. Qui sont avec nous en esprit. Allez, bonne nuit et à bientôt.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers,
Everything from 1-800-Flowers is made with love, every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.